Vous écoutez
RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h sur RMC. RMC Story, très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À qui la faute encore ce matin? Un nouveau rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris. Un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle avait déjà été mis en cause il y a seulement 2 ans. Vous allez voir dans ce journal qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France avec toutes les cyberattaques. Les chiffres sont en hausse de 10% sur 1 an. Et vous verrez aussi que Victor Wembanyama a encore marché sur l'eau cette nuit aux États-Unis en NBA en étant époustouflant pour le premier match de la finale de conférence Ouest.
C'est un énième rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris.
Oui, c'est un scandale de grande ampleur qui n'en finit plus d'éclater puisque les enquêtes pour de possibles violences sur les enfants sont ouvertes dans une centaine d'écoles de la capitale, dans une maternelle sur 3. Ça vous donne une idée de l'ampleur. 78 agents ont été suspendus depuis le début de l'année et le nouveau rebondissement concerne un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle dans une école du 11e arrondissement. Pierre Bazin, au service police-justice, RMC. Il avait déjà été mis en cause il y a 2 ans.
Oui, ce sont les agents en charge de l'enquête administrative qui ont révélé aux parents que cet animateur avait déjà été visé par une plainte en 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur une fillette. C'est ce que nous rapporte cette parent d'élève qui a assisté à la réunion.
Le temps de l'enquête, il a arrêté de travailler. Ça a duré 6 mois. La brigade des mineurs a conclu à une affaire sans suite. Il a alors décidé de repostuler dans la direction du périscolaire du 11e et du 12e arrondissement.
Les plaintes se sont ensuite multipliées dans les écoles où il a exercé après 2024. Les parents d'élèves sont consternés. C'est le cas notamment d'Éric. Le père de famille a lui-même porté plainte. Sa petite fille était au contact de cet animateur.
Je suis très énervé. Il y a un principe de précaution. Et au nom de ce principe de précaution, cet éducateur n'aurait pas dû être là. On n'a pas fait en sorte qu'il ne récidive pas. Et en cela, il y a un comportement fautif de la mairie de Paris et d'une de ses administrations, celle qui est en charge du périscolaire. Il faut imaginer, nous le soir, on voit nos enfants avoir peur.
Ce soir, c'est à l'ensemble des parents des écoles concernées que les conclusions de cette enquête administrative seront présentées.
10 plaintes étudiées par la justice à Nanterre, une à Saint-Malo, une autre à Paris. Voilà le détail de l'affaire Patrick Bruel qui est accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes. Alors lui, il conteste, mais l'animatrice Flavie Flamand qui a porté plainte contre lui la semaine dernière dit, et je la cite, qu'elle est sidérée par la défense des avocats du chanteur.
Et puis on a la preuve par les chiffres ce matin qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France.
On en parle quasiment tous les jours, des cyberattaques, des piratages de grande ampleur. Et bien plus de 6000 notifications ont été recensées en 2025 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que vous connaissez certainement sous le nom de la CNIL, chiffre en hausse de 10% sur 1 an. Dans la moitié des cas, c'est lié à des piratages, Amélie Courtet.
Oui, personne n'est épargné, souligne la CNIL, des fédérations sportives en passant par Free jusqu'au ministère de l'économie. Des fuites de données personnelles de plus en plus massives, note le rapport. Bien souvent, la faille est à trouver chez les prestataires avec des systèmes de sécurité plus vulnérables. Si les attaques se multiplient, analyse la CNIL, c'est d'abord parce que le vol de ces données est rentable, mais aussi parce que ces attaques sont de plus en plus faciles à mener grâce au développement de l'intelligence artificielle. Alors, face à la hausse des cyberattaques, la CNIL promet de renforcer ses contrôles et ses sanctions, mais elle invite également les utilisateurs à adopter une bonne hygiène numérique et ne pas cliquer sur les liens douteux, avoir des mots de passe robustes, une vigilance qui doit être permanente car les tentatives d'escroquerie interviennent souvent plusieurs semaines après le vol de données.
On reparle de la Chine ce matin. Les sommets s'enchaînent. Vladimir Poutine est attendu à Pékin aujourd'hui et demain pour célébrer l'amitié officiellement entre les deux pays. Une semaine après, souvenez-vous, la visite en Chine de Donald Trump qui fait une nouvelle sortie sur le conflit au Moyen-Orient ce matin en évoquant de bonnes chances, voilà ce qu'il dit, de parvenir à un accord avec l'Iran et en disant aussi qu'il avait renoncé à la dernière minute à des frappes visant l'Iran qui étaient normalement, selon lui, prévues ce mardi. Alors dans ce contexte de conflit au Moyen-Orient, les TPE et les PME résiste finalement à la crise mieux que prévu, qui n'entraîne pas de dégradation majeure, avec même des intentions d'investissement en légère hausse. Tout ça, c'est ce que nous dit le dernier baromètre de BPI France. Vous vous souvenez certainement que le gouvernement avait promis une loi d'urgence avant l'été pour répondre à la crise agricole. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui qu'elle sera examinée à l'Assemblée nationale, où les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques. Le RN demande la réintroduction de l'insecticide tueur d'abeilles, comme il a été qualifié, celui qui avait déjà mis le feu aux poudres l'année dernière. La gauche, elle s'oppose à l'installation de poulaillers géants, comme on les appelle, que le texte prévoit d'ailleurs de simplifier pour officiellement faciliter la vie des agriculteurs, nous explique Philippine Boulet.
Camille se lance en 2023 dans le projet de sa vie, construire une exploitation de 30 000 poules pondeuses dans la Vienne. 3 ans plus tard, seul un hangar est sorti de terre.
Ça a été laborieux, ça se concrétise encore.
Le parcours du combattant, selon lui, il a passé 2 ans à faire uniquement de l'administratif.
On nous demande 3 ou 4 fois les mêmes informations, qu'on en était même à douter de la faisabilité du projet dû au retard.
À ces contraintes s'ajoute la recherche de financement. Alors pour faciliter l'installation des éleveurs, le projet de loi prévoit de revoir à la hausse le seuil à partir duquel certaines normes environnementales s'appliquent, de 40 000 à 60 000 poules. Une très mauvaise idée selon Stéphane Boissavi de l'association Wellfarm, opposée à ces structures. Pour lui, elles sont un danger pour l'environnement.
Il y a régulièrement des incidents qui peuvent entraîner de la pollution, de l'air, des sols, des rivières. Bon, les effluents animaux, etc. entraînent une pollution. Une cuve à lisier, par exemple, qui a une fuite et puis ça se déverse dans les rivières.
Selon les défenseurs du projet de loi, la création de poulaillers géants permet de répondre à la demande croissante en poulets et en œufs.
À 8h06 sur RMC, sachez que l'ambiance n'est plus vraiment dans la fête en cette deuxième semaine du Festival de Cannes, où se réunit le monde du cinéma comme chaque année. Mais tout a changé depuis ce week-end, quand le patron de Canal+, un des argentiers du cinéma français, a annoncé le boycott de tous les signataires d'une tribune anti-Bolloré. On est 2 jours après et la polémique n'est toujours pas retombée, Romain Hougain.
Mais non, et c'est même tout le contraire. D'abord, l'annonce du patron de Canal+, Maxime Saada, a fait exploser le nombre de signataires de cette tribune. Désormais, plus de 1200 professionnels du cinéma. Robin Campillo fait partie des nouveaux noms. C'est le réalisateur du film multi-récompensé 120 battements par minute. Et puis, surtout parce que ce sujet est désormais quasiment omniprésent sur la croisette, pas une conférence de presse, pas une interview sans que la question ne soit posée. Et il y a ceux qui dénoncent cette annonce du groupe Canal+, comme Adèle Exarchopoulos. Tu ne peux pas avoir peur de perdre ton travail juste parce que tu exprimes une inquiétude collective, lance l'actrice. Et ceux qui peinent à réellement voir une inflexion idéologique dans les choix de Canal+. En tout cas, la polémique est telle qu'à 1 an de la présidentielle même, les politiques s'en mêlent. Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon dénonce la mainmise de Vincent Bolloré sur le secteur, quand David Lisnard, le maire de Cannes, lui, accuse les signataires de mordre la main de celui qui les nourrit.
Si vous vous réveillez ce matin, sachez que vous avez raté un très gros match de basket cette nuit. C'était le début de la finale de Conférence Ouest en NBA. Alors on va être tout à fait honnête, c'est rare qu'on en parle, hein, des finales de conférence, mais là, ça vaut le coup. Virginie Fulpin, au sport le matin pour RMC, c'est San Antonio qui a gagné ce premier match donc de finale contre Oklahoma, 122-115 précisément, mais surtout, Victor Wembanyama, il a été époustouflant.
Oui, il va falloir chercher de nouveaux superlatifs pour qualifier ses performances. C'était un match fou entre les deux meilleures équipes de la saison, tendance irrespirable. Il a fallu 2 prolongations pour les départager. Et c'est Victor Wembanyama qui s'est chargé de donner la victoire à San Antonio. C'est lui qui est allé arracher la 2e prolongation d'un tir venu d'ailleurs. Et il a survolé la fin de match avec 9 points marqués en 5 minutes. Sur l'ensemble de la rencontre, le Français a inscrit 41 points. Il a réussi 24 rebonds. Vous ajoutez à ça 3 passes décisives et 3 contres. Et vous avez un match de géant. Il a plané au-dessus de tout le monde, y compris de celui qui a été élu MVP, meilleur joueur de la saison, Shai Gilgeous-Alexander. Wemby était peut-être vexé d'avoir fini que 3e de cette élection. En tout cas, à 22 ans, alors qu'il dispute ses premiers play-offs en NBA, la phase finale du championnat, il montre une maturité, une efficacité redoutable.
Et alors, l'autre star du jour, c'est le footballeur Neymar, retenu avec le Brésil pour la Coupe du Monde du mois prochain. Il y avait des milliers de personnes devant le musée où ça a été annoncé hier soir au Brésil, quand le nom de Neymar a été prononcé. Mais il y a son sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui prévient déjà, hein, l'ancien Parisien, il jouera, mais seulement s'il a le niveau.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, il y a une nouvelle grande compagnie pétrolière qui va quitter la France et c'est officiel, c'est la Shell.
Oui, vous ne trouverez sans doute bientôt plus sur vos routes les stations surmontées du célèbre logo jaune et rouge en forme de coquille Saint-Jacques. Shell serait en effet sur le point de se désengager définitivement de son réseau français. Et Shell n'est pas la seule grande compagnie pétrolière à quitter la France. À partir de 2023, vous avez vu disparaître l'enseigne BP. Alors il y a l'enseigne Esso qui est toujours là, mais attention, ce sont des franchises qui n'appartiennent pas à la majeure pétrolière Exxon, mais au groupe d'énergie canadien North Atlantic. Pourquoi ces grandes majeures pétrolières se détournent de la distribution? Parce qu'il y a trop de contraintes et que ça n'est pas une activité assez rentable. En France aujourd'hui, il n'y a plus que 2 compagnies pétrolières qui extraient, raffinent et vendent leur propre carburant à la pompe, c'est le français Total Energy et l'italien Eni.
Qu'est-ce que ça change pour nous, pour les automobilistes ?
Alors, tous ces changements, ils auront plus d'impact sur l'offre de carburant que sur les prix. Il y a sans doute des stations qui vont fermer, alors pas sur les autoroutes, parce que c'est une activité très rentable, pas dans les campagnes, parce que ces grandes enseignes mondiales sont déjà parties, mais à la périphérie des villes, autour des rocades notamment. Pas de crainte sur les prix, par contre, hein, dans un pays où les deux tiers du carburant est vendu en grande surface, la pression concurrentielle est telle qu'il n'y a pas de dérive à attendre du côté des prix à la pompe.
Et puis justement, les prix à la pompe et les prix du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend ?
Bah, c'est simple, Apolline. Quand le pétrole se maintient autour de 110 dollars le baril, ce qui est proche des sommets atteints depuis le début de cette crise, bah, les prix des carburants, au mieux, ne baissent plus. C'est le cas du gazole, ou bien remontent un peu. C'est le cas du sans-plomb 95. Hein, le gazole, 2,15 euros le litre. Le sans-plomb 95, 2,03 euros. Le gaz se stabilise aussi autour de 50 euros le mégawatt-heure. C'est les plus hauts niveaux quand même depuis début avril. Il faut rappeler qu'on était à 30 euros le mégawatt-heure avant la crise.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h11 sur RMC. D'abord, vous êtes nombreux, notamment les motards, à vous défendre ce matin parce que les chiffres le disent. Un motard sur trois ne respecterait pas le code de la route. Vos réactions ?
Alors, on est tous d'accord depuis 5h ce matin, Pauline, pour dire que 33% des conducteurs de roues qui admettent dépasser la limite, c'est un chiffre un peu bas. Et ils le reconnaissent eux-mêmes au 32-16. C'est lié évidemment à la puissance du véhicule. Alors, il y a eu opposition ce matin, motard automobiliste. Georges nous dit... Il n'y a pas que cette opposition-là, il ne faut pas oublier les infrastructures que certaines mairies nous mettent à disposition. La ville de Tours, pour ne pas la nommer, nous dit Georges, où on peut se retrouver avec une rue à sens unique, où se côtoient automobilistes, motards, cyclistes et encore les cyclistes, parce que la rue est à double sens pour ces derniers. Voilà ce que nous dit Georges ce matin sur le WhatsApp RMC. J'ai Christian aussi qui voulait saluer les motards, mais leur demander de faire un peu moins de bruit. S'il y a bien une chose que je déteste à Toulon, c'est le bruit des pots d'échappement, leur vitesse insupportable. Voilà ce que dit Christian ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire. Notez qu'à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Est-ce que l'État est dépassé face au narcotrafic, face à l'insécurité du quotidien ? Il veut reprendre la main. Il défend aujourd'hui sa nouvelle loi sur les rodéos sauvages, sur le protoxyde d'azote. Et puis, il reviendra évidemment aussi sur les dernières tueries dans le cadre du narcotrafic à Nice ou à Marseille. Rendez-vous donc à 8h30 avec le ministre de l'Intérieur. Juste après, il y aura face à Canteloup. Nicolas Canteloup, tous les jours en direct à 8h50. Pour l'heure, il est 8h12. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud Demanche est avec nous.
Mais oui, alors, bonjour, qu'est-ce que c'est ce jeu ? C'est
parce que derrière moi, oui, il y a nouveau jeu, les 26, devenez sélectionneur des Bleus, il y en aura un gagnant juste après vous, Arnaud.
D'accord.
Restez bien à l'écoute.
Ah, bah, je vais voir ça avec grand plaisir et le parodier demain, alors. Bonjour à tous. Tiens, Apolline, j'avais une question pour vous aussi, les amis. Est-ce que vous avez peur des serpents ?
Si oui,
n'allez pas à Castelginest, c'est près de Toulouse. Ils ont vu un cobra royal dans les rues du village. Un cobra royal, c'est-à-dire mi-serpent, mi-ségolène. Deux raisons de se méfier. Alors, si vous le croisez, pas de panique, c'est un cobra, ça n'attaque que rarement. Donc, ignorez-le, voilà. Faites comme si c'était un bénévole d'Handicap International à la sortie des gares. Vous savez, les gens qui disent « Salut beau gosse, t'as 2 minutes !» Vous l'ignorez, pareil. Parce que sinon, tu te retrouves à donner tous les mois 50 balles. Et c'est l'arnaque parce que tu ne reçois jamais ton handicapé. Je ne l'ai jamais eu, moi. Mais parlons politique. Parlons de politique. On se discipline. Oui, on est à un an de la présidentielle.
Allez,
il y a déjà plus de 30 candidats.
Oh là 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 là.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle chez les experts l'effet Macron.
Jamy, pourquoi on a autant de candidats, Jamy ? J'ai jamais vu ça, Jamy. Plus de 30, Jamy.
Eh bien Fred, c'est l'effet Macron. Depuis qu'un homme sans parti, sans expérience et sans soutien est devenu chef de l'État, n'importe qui se dit « je peux le faire » et le nombre de candidatures remonte. Et l'envie de voter pour un de ces tocards redescend. Alors parmi les candidats putatifs, c'est pas un gros mot,
non,
ça veut dire supposé. Gabriel Attal qui veut organiser un grand meeting le 30 mai, c'est-à-dire le même jour que la finale de Ligue des Champions du PSG. Oh, bravo Jean. champions, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder, Jamy ? Est-ce qu'on va regarder Gabriel Attal en meeting ou Dembélé qui écrabouille Arsenal ? Alors, ceci dit, il peut quand même faire une grosse audience à Marseille. Je pense que sur le Vieux-Port, tout le monde sera dans les bars pour suivre le meeting de Gabriel Attal.
C'est sûr.
Mon projet pour la France, c'est de poursuivre ce que le président... Oh, y a rien d'autre à la télé, là. On peut changer de chaîne.
Et but de Dembélé, Paris est champion.
Non, putain, remets Gabriel Attal, et qu'on puisse voir au moins un Parisien qui prend une branlée, quoi. Au moins.
À l'occasion du festival de Cannes, Arnaud, des militants écologistes appellent les stars à privilégier le train. Ou l'avion en classe éco pour venir sur la Croisette et délaisser donc les jets privés.
Oui, c'est vrai que c'est pas écologique. Alors, ceci dit, ça doit quand même être plus confortable de voler en jet privé que sur Ryanair. Tu sais, quand t'es coincé entre des enfants et des ados et ça, qui sont insupportables. Comment ça, qui sont insupportables? Mais pas du tout. Baliverne et Bilvesé.
Oh, Jack
Lang. Et oui, vous savez qu'en tant que ministre de la Culture, enfin, ex-ministre de la Culture, si vous y tenez, c'est pas pour autant que je paierai au restaurant. Cette histoire d'ado insupportable dans les avions, c'est un cliché. Ça arrive aussi d'être entouré d'ados très aimables, bien élevés, obéissants à bord d'un jet privé, comme celui de mon ami Epstein, et ça se passe très bien. J'ai rencontré le pilote chez Woody Allen, et nous recevions des stagiaires. Nous leur disions « Joey, tu as déjà vu un cockpit ?» Et tu aimes les films sur les gladiateurs. Joey, tu as déjà vu un ministre tout nu?
Non, allez, merci Jack Lang. Canal Plus va blacklister les signataires de la tribune anti-Bolloré qui a donc circulé dans le cinéma français.
Oui, alors le groupe de la liberté d'expression, Canal Plus, s'apprête à se passer des 600 signataires. Il y a Juliette Binoche, Swann Arlo, Sergi Lopez, Adèle Haenel. On va se retrouver avec des films où il y aura seulement les fidèles de Bolloré, comme Jean-Marc Morandini dans le remake des Choristes.
Oh non.
Salut les garçons. Alors aujourd'hui, on va chanter une nouvelle chanson, Prendre un enfant par la main.
Oh, encore.
Allez, ouvrez vos chemises, il faut que vous puissiez remplir vos poumons et donner toute la puissance.
Monsieur,
qu'est-ce qu'il y a, Baptiste?
On peut remettre nos pantalons quand même?
Et après, il y aura Pascal Pro dans le remake de La Grande Vadrouille.
Ah oui.
Mais Pascal, mais pris mes chaussures, mon vélo. Comment on va faire contre les nazis? Mais pourquoi? Pourquoi ostraciser comme ça nos amis d'Outre-Rhin? Mais vous êtes un cliché ambulant, mon pauvre Bourville. C'est du panurgisme. Vous cédez à la doxa wokiste anti-vermin. Allez, donnez-moi votre uniforme allemand. C'est pour passer inaperçu? Non, je trouvais ça joli. Et après le succès du film d'Artus, un petit truc en plus,
voilà.
Vincent Bolloré présentera le premier film de Philippe de Villiers, un petit turc en moins.
Oh non.
Mustapha, Mustapha, dépêche-toi. Ton vol pour Istanbul va partir.
Bonjour Mustapha, je suis un ami de pilote. Dis-moi, tu as déjà visité une prison turque? Et tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Oh non! Encore Jack Lang.
Bref,
plein de beaux films en préparation, Apolline. Ah,
c'est magnifique.
C'est merveilleux.
C'est magnifique. Merci beaucoup Arnaud de Manche en direct. Il est 8h19. C'est l'heure de jouer et de gagner, de faire gagner surtout Simon. Bonjour Simon.
Bonjour Apolline.
Simon, félicitations. C'est vous qui avez gagné le jeu. Mais on va voir ce que vous avez gagné. Hein. Attention.
Allez,
comment ça va Simon? Vous faites quoi dans la vie? Vous habitez où?
Alors, j'habite à Mormoron, dans le Vaucluse.
D'accord.
Et je suis centraliste à béton.
Alors, centraliste à béton. Alors, Simon, écoutez-moi. J'ai devant moi une sorte quoi, de tableau.
La compo.
26 maillots.
Sur le terrain.
Vous avez été sélectionné, mais surtout, vous devenez sélectionneur, en fait, ce matin. Puisque vous allez devoir choisir un joueur. Derrière chaque joueur, il y a un super cadeau. Donc vous sélectionnez un numéro ou un nom pour savoir ce que vous remportez. Je vous écoute.
Théo Hernandez.
Théo Hernandez, c'est parti.
Oui. Il est là, c'est le 19.
Allez, hop, je me fais plaisir. Hein.
On ouvre la case avec Mathieu. Et voilà, là, attention, je vais vous dire ce que vous avez gagné, Simon. Vous êtes prêt?
Oui, je suis prêt.
Simon, vous avez gagné le pack supporter, un maillot officiel de l'équipe de France, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026, le kit officiel du supporter de l'équipe de France. Vous allez pouvoir vibrer en écoutant et les soutenir, les Bleus. Félicitations, Simon.
Merci, c'est super. Merci à vous. Merci à Pauline.
Simon, on vous félicite. On est très heureux pour vous. Vous allez la suivre, évidemment, la Coupe du Monde. Vous pourrez la suivre en intégralité sur RMC Radio, officiel de la Coupe du Monde 2026. Et pour continuer, eh bien, vous vous inscrivez tout de suite. Il y a encore des cadeaux à gagner, plein de cadeaux à gagner. Et je trouve vraiment que Mathieu, vous faites ça très très bien.
Bien, hein,
d'ouvrir la petite case.
C'est une reconversion.
C'est une très belle hôtesse.
La fortune,
vous pouvez donc continuer de vous inscrire pour remporter des super cadeaux. Vous envoyez tout de suite, comme Simon l'a fait, liste au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Il vient défendre sa loi, elle s'appelle Riposte. L'idée, c'est de lutter contre les rave parties sauvages, contre les rodéos, contre le protoxyde d'azote. Le problème, c'est qu'il y a déjà des lois et elles ne sont pas vraiment appliquées. Évidemment, je reviendrai sur la question de l'efficacité de ces lois avec lui dans un instant. Ça se passe sur RMC BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Il rappelle des titres, Victor Pourchet.
Donald Trump dit retenir ses coups contre l'Iran. Frappes américaines d'ampleur retenues, reportées in extremis à la demande des autres pays de la région. C'est ce qu'assure le chef de la Maison-Blanche pour qui un accord a de très bonnes chances d'aboutir avec Téhéran. C'est un procès plus qu'attendu par les parents du petit Jonathan. 22 ans jour pour jour après la découverte du corps du garçon de 10 ans au fond d'un étang de Guérande. Le principal suspect de cet enlèvement dans un camp de vacances puis du meurtre. Un Allemand de 55 ans est jugé à partir d'aujourd'hui. La politique, c'est le projet de loi agricole dont l'examen va commencer à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il contient notamment des mesures pour réintroduire certains pesticides ou encore l'allègement de certaines règles pour l'installation d'élevage intensif. À Nice, 3 personnes ont été mises en examen hier. Parmi elles, l'auteur présumé des tirs lors d'une fusillade qui avait fait, je vous le rappelle, 2 morts et 6 blessés dans le quartier des Moulins sur fond de trafic de drogue. Le sport et la nuit de folie en basket pour Victor Wembanyama. 41 points, 26 rebonds pour le français des San Antonio Spurs contre l'Oklahoma Thunder. Victoire des Spurs face aux champions en titre dans ce premier match des finales de la Conférence Ouest, c'est-à-dire les demi-finales sur la route pour le titre NBA. Du foot et la joie des Brésiliens après des mois de suspense. Neymar, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a bien été sélectionné pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Ce sera dans un mois aux États-Unis. RMC radio officielle de cette compétition. Les 104 matchs commentés en direct sur notre antenne à partir du 11 juin prochain. Et puis la météo, un temps gris et pluvieux sur les trois quarts nord du pays. Pas mal de vent sur le nord-ouest avec un temps tout de même plus clément dans le sud. Un ciel voilé notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté température, elles sont en hausse cet après-midi. Comptez de 16 degrés à Lille et Reims jusqu'à 24 degrés à Toulouse, il fera 16 à 18 à Paris ou encore 22 à Lyon.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il défend sa loi, elle s'appelle Riposte. L'idée, c'est de lutter contre les rodéos sauvages, contre les rave parties, contre le protoxyde d'azote, mais aussi contre le narcotrafic. Est-ce que vraiment ce sera efficace? J'essaye de lui poser la question et de tout comprendre pour vous dans un instant. Ça se passe sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Très nombreuses questions à vous poser sur la lutte contre le narcotrafic, sur les relations avec l'Algérie. Votre collègue ministre de la Justice y était hier. Et puis sur cette loi que vous défendez au Sénat, la loi qui s'appelle Riposte, réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. On parle là de rodéo sauvage, on parle de protoxyde d'azote, on parle des rave parties, et sur toutes ces questions-là, un arsenal de réponses plus efficaces, dites-vous. Mmh. On va les prendre une par une. Je voudrais qu'on commence par parler du protoxyde d'azote. On en parle très régulièrement sur notre antenne. Il y a une vraie explosion de la consommation du protoxyde d'azote avec des conséquences pour la santé évidemment de ceux qui la consomment, mais aussi pour tous les autres, parce que ça provoque des accidents, parce que c'est devenu un quotidien et un enfer. Est-ce que vraiment vous allez cette fois-ci pouvoir y mettre fin ?
Oui, parce que vous avez raison de souligner que ça, le protoxyde d'azote crée des dégâts considérables. Il y a énormément de consommation, des conduites sous l'état de protoxyde. On a eu des accidents mortels très graves. Et actuellement, ça n'est que contraventionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut appliquer que des contraventions. Il y a beaucoup de préfets qui prennent des arrêtés d'interdiction du protoxyde, enfin en tout cas de la consommation sur la voie publique, beaucoup de maires. Mais ça n'est que contraventionnel. Et avec la loi Riposte, dont le débat, la discussion a commencé hier soir, déjà deux articles qui ont été adoptés hier soir, on crée trois délits. On crée trois délits, dont celui évidemment de la consommation, du transport sans usage autorisé. Et puis on a aussi évidemment le délit de conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote. Donc il y aura plus de sanctions contre le protoxyde d'azote.
Alors évidemment, tout est dans le détail et effectivement, comme vous le dites, sauf usage autorisé. Et c'est tout le problème. Et on voit bien évidemment que le diable s'est niché dans les détails depuis un bout de temps. Le protoxyde d'azote, officiellement, on a le droit de l'utiliser dans la cuisine pour faire les espèces de mousse que font les grands cuisiniers. Sauf que désormais, on parle pas de petites cartouches comme il y en avait dans les vieux tiroirs de nos grands-mères. On parle de bonbonnes, on parle de tanks. Ça s'appelle même des tanks. C'est des trucs qui font plusieurs kilos. C'est considérable. Et moi, j'ai quand même vérifié. Il y a une loi déjà qui existe. Cette loi, c'est la loi du 1er juin 2021. Tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Cette loi, elle écrit noir sur blanc qu'il est interdit de faire usage ou vente du protoxyde d'azote. Je ne comprends pas pourquoi il y a des interdictions qui sont écrites dans la loi.
Non, mais c'est pas en ces termes que se pose le problème, parce que d'abord, la vente à petite quantité est possible, malgré les textes que vous venez de citer, et par ailleurs, il y a un usage professionnel qui en est fait, qui est permis, et qui est détourné en réalité. Donc les délits vont permettre de lutter contre cet usage détourné, qu'il s'agisse du transport, de la consommation ou de la conduite sous l'empire de...
Mais comment vous allez faire par rapport au site de commerce ?
Un délit, ça veut dire des sanctions plus importantes, c'est-à-dire possibilité de garde à vue, le cas échéant. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, le débat qui se pose, et on en discutera dans le cadre du projet de loi Riposte, parce qu'il y a des amendements en ce sens, le débat c'est de savoir si on interdit totalement la vente du protoxyde d'azote, sauf à déroger pour des professionnels. Voilà. Sauf qu'il y a des.
En fait, que ce soit plutôt l'inverse. Effectivement, on interdit par principe.
Il y a des règlements européens qui empêchent de faire cela, mais nous allons en discuter le cadre de la discussion Riposte. Oui, oui. Évidemment qu'on va réserver la commercialisation du protoxyde d'azote aux seuls besoins nécessaires, aux seuls professionnels qui en ont besoin. Évidemment que c'est le chemin sur lequel il faut arriver, mais pour l'instant, ça n'est pas rien. Apolline de Malherbe, on crée trois délits qui vont permettre aux policiers, aux gendarmes, quand ils constatent des jeunes qui ont du protoxyde d'azote sur eux, qui en consomment sur l'espace public, ou des personnes qui en vendent sous le manteau dans des épiceries, par exemple, c'est ce qu'on voit se constater en petite couronne, en grande couronne, sur l'ensemble du territoire national. Un certain nombre de personnes qui en vendent de manière illégale,
on va pouvoir constater le délit et les fermer administrativement. Je constate évidemment que vous prenez un certain nombre de mesures. Ce qui me sidère toujours, c'est le décalage, pardonnez-moi, entre les annonces, la loi et le réel. Il est interdit, depuis 2021, interdit de consommer du protoxyde d'azote pour les mineurs.
Oui, donc de vendre du protoxyde d'azote à des mineurs, c'est pas tout à fait la même chose.
Il est interdit. J'ai tout à fait la loi sous les yeux. Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote. Il est interdit également de vendre et de distribuer tout produit spécifique destiné à faciliter l'extradition du protoxyde. Tout ça, c'est dans la loi de 2021. Le problème, c'est aussi les sites de commerce. Et là aussi, je voudrais vous reposer la question de l'efficacité. Les sites de commerce électroniques doivent spécifier, c'est la loi de 2021, l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils mettent cet interdit, mais que derrière, ils vendent des bonbonnes qui n'ont rien de cuisine. C'est-à-dire qu'il suffit de les regarder pour comprendre.
C'est bien pour ça que nous créons des sanctions, trois délits qui vont permettre de réprimer cet usage, ce détournement d'usage.
Ça veut dire que vous allez fermer ces sites de
Je vous assure que ça n'existe pas. Oui, la loi Riposte permettra de fermer tous les commerces qui vendent de manière illicite du protoxyde d'azote.
Aujourd'hui, il y a une amende de 3 750 € contre tous ceux qui vendraient dans les commerces, dans les débits de boissons, ce que vous disiez à l'instant, les ventes sous le manteau, et y compris sur Internet, du protoxyde d'azote aux mineurs. Est-ce que vous savez si cette amende, qui existe déjà dans la loi actuelle, avant même la vôtre, est vraiment appliquée?
Oui, mais je veux dire que là, je vois bien le débat, c'est est-ce qu'on a des textes qu'on n'applique
pas? En fait, c'est est-ce que la loi est appliquée?
Non, la loi est appliquée, mais vous ne pouvez pas sanctionner des personnes qui consomment sur l'espace public, des personnes qui transportent de manière illégale, et dans le projet de loi Riposte, on permet en plus de fermer administrativement des commerces qui ne sont pas des commerces spécialisés. Les textes dont vous parlez visent des commerces spécialisés. Moi, je vous dis qu'il y a on vend du protoxyde d'azote dans des épiceries, dans des commerces qui ils n'ont pas le droit de le faire. Ça, on le constate tous les jours et on pourra sanctionner.
Et fermer la boutique.
Ce sera un délit, on pourra fermer surtout, fermer administrativement. Et ça, c'est extrêmement important.
Les rave parties. Le 1er mai dernier, vous avez été confronté, Laurent Nunez, à ces 20 000 fêtards qui s'étaient installés près de Bourges et notamment sur un site militaire. Vous vous êtes d'ailleurs rendu sur place. Là encore, la participation à une free party, aujourd'hui, elle n'est pas réprimée en tant que telle. Donc, on se retrouve à devoir trouver d'autres motifs, comme par exemple la consommation de stupéfiants ou les atteintes sexuelles et sexistes. Voilà ce qui permet parfois de sanctionner les participants. Qu'est-ce qui va se passer demain avec votre loi ?
Là, actuellement, on peut pas dire que ça n'est pas réprimé, mais c'est réprimé trop faiblement. C'est une contravention. Que vous soyez un organisateur, que vous soyez un participant, c'est une.
Si vous êtes l'organisateur, vous avez 1 500 euros voilà, de contravention et la saisie du matériel sonore.
Et pour les participants, la somme est 10 fois inférieure. C'est ridicule. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'en faire un délit. Vous êtes organisateur d'une rave party. Vous prenez la responsabilité de faire venir parfois des milliers de personnes sur un site sans aucun encadrement, en toute méconnaissance des droits, sans avoir obtenu l'autorisation du préfet. Donc ça devient un délit. Il y a manifestement une mise en danger d'un certain nombre de personnes. Il n'y a pas de cadre sanitaire. Ce sont des lieux, par ailleurs, où on consomme énormément de produits stupéfiants. On l'a encore vu ce week-end en Lozère, où une rave party s'est mise en place et heureusement, grâce à l'intervention des gendarmes, n'a pas pu prospérer. On a saisi énormément de produits stupéfiants. Donc ça devient un délit. Et même chose pour les participants. Vous ne pouvez pas passer 3-4 jours sur un terrain, créer des nuisances énormes pour le voisinage, pour les agriculteurs, des dégradations et repartir avec la. Parce que nous verbalisons. Les gendarmes, en l'occurrence, puisqu'on est souvent dans une gendarmerie, ils verbalisent, mais c'est qu'une contravention. C'est 135 euros et vous avez des jeunes qui vous disent
donc,
le droit d'entrer à la rave party, c'est 135 euros. Donc ce sera un délit, ça devient un délit pour les participants également.
Donc
ça
l'amende deviendra comment forfaitaire, elle l'est déjà ?
On applique par ailleurs, donc ça deviendra un délit pour les participants. Donc délit, ça veut dire le cas échéant peine d'emprisonnement de 6 mois, voire 7 500 euros d'amende. Mais il y aura la possibilité d'éteindre l'action publique en appliquant l'amende forfaitaire délictuelle. C'est-à-dire on constate, la personne paye et l'action publique est éteinte. Donc ça permettra de travailler beaucoup plus.
La personne paye. La personne ne paye pas.
La personne paye, elle s'engage, soit elle paye sur le champ, soit elle s'engage à payer, et sinon elle est poursuivie, évidemment.
Mais vous savez qu'il n'y a que 20% de ces amendes qui sont recouvrées.
Non, il y a 20%.
C'est ce que dit la Cour des comptes.
50% pour les consommateurs de stup, et c'est 20% dans la généralité des cas. La Cour des comptes ne remet pas en cause le principe de l'amende forfaitaire délictuelle. Il faut que vos téléspectateurs comprennent bien. Ça veut dire qu'on a un délit, qu'on constate, la personne paye et l'action publique est éteinte. C'est moins de travail pour les forces de sécurité intérieure, moins de travail accessoirement pour les magistrats, et surtout la Cour des comptes ne remet pas du tout en cause le procédé de l'amende forfaitaire délictuelle qu'on a multiplié à de nombreux types de délits,
mais elle pointe le décalage entre ce que l'on dit et ce qu'il se passe.
Elle formule un certain nombre de recommandations, effectivement en matière de recouvrement, effectivement en matière d'organisation, et le gouvernement a tout un plan pour améliorer le fonctionnement de l'amende forfaitaire délictuelle. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet de loi Riposte, je dépose au nom du gouvernement 3 amendements qui vont permettre d'en améliorer le recouvrement.
De pouvoir recouvrir ces amendes de manière plus efficace.
De pouvoir recouvrir ces amendes de manière plus efficace, évidemment.
Le matériel sonore et les jeux de lumière sont souvent normalement, en tout cas, vous devriez pouvoir les saisir, sauf qu'ils sont souvent loués dans des entreprises à l'étranger, ce qui rend là encore l'application quasi impossible.
Non, parce que justement, dans le cadre du projet de loi Riposte, on a prévu un certain nombre de dispositions qui le rendront possible. Et surtout, on va créer une obligation pour les loueurs.
Y compris les loueurs étrangers.
C'est d'ailleurs la commission.
Parce que c'est souvent loué en Espagne, en Italie.
On les saisira sur le territoire national. Mais vous avez aussi beaucoup de locations qui sont faites en France. Et donc, on va créer une obligation pour les loueurs. D'ailleurs, c'est la commission au Sénat, dans le cadre de l'examen du projet Riposte, qui a fait cette proposition, qui les obligera à tenir un registre, à relever l'identité et à obtenir la preuve de la déclaration légale de la manifestation musicale autorisée de manière à ce qu'ils puissent louer du matériel.
Vous pensez obtenir, Laurent Nunez, une majorité pour ce texte ?
Je ne vois pas qui s'opposerait à un certain nombre de mesures plus répressives. En pénal, en administratif, avec les fermetures administratives dont on a parlé, vous avez aussi une mesure administrative qui sera très importante, c'est l'interdiction de conduire tout véhicule moteur à terrestre pour toute personne qui se livrera à des rodéos. Je ne vois pas quel parlementaire peut s'opposer à un durcissement des sanctions administratives ou pénales sur ces délits qui empoisonnent la vie de nos concitoyens au quotidien. Et vous les avez cités, les
réparties, les rendez-vous, les mortiers. Enfin, devrait le voter.
Bien sûr. Enfin, je suis très confiant. C'est un texte qui doit pouvoir permettre d'aboutir à un consensus.
Sur le narcotrafic, le procureur de Nice l'a dit hier. Il semble avoir des ramifications marseillaises sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que désormais, au fond, Nice se marseillise, si je puis me permettre?
Moi, je vais vous dire, Apolline Malherbe, j'ai surtout retenu ce qu'a dit le procureur de la République, qui d'ailleurs recoupe largement ce que le ministre de l'Intérieur modestement avait dit quelques jours avant, quand je me suis déplacé à Nantes, ou à l'Assemblée nationale, quand j'ai été interrogé sur le drame qui s'est produit à Nice. Puisqu'à Nice, c'est un drame. On a très probablement deux personnes qui ont été tuées sans avoir aucun lien avec le trafic. C'est un drame, c'est un règlement de compte. Je vais vous dire qu'à Nice, qu'a dit le procureur, il a confirmé que les forces de sécurité intérieure faisaient un travail remarquable pour lutter contre les trafics de stupes, que dans le quartier des Moulins, il y avait 12 points de deal, il y en a plus que deux. Il y a une guerre de territoire autour de ces deux points de deal, et c'est surtout ce que je veux retenir de ce qu'a dit le procureur. C'est qu'on lutte contre le trafic de stupes, on a des résultats, 12 points de deal, deux points de deal qui restent, et on va continuer évidemment ce travail. Les policiers, sous l'autorité des parquets. Il a donné un chiffre qui est extrêmement important. Dans ce seul quartier en 2025, il y a eu 100 écrous. Depuis le début de l'année, on est à 50 personnes écrouées au titre du trafic. Donc voilà, le trafic de drogue, je le redis, c'est pas une fatalité.
Il recule.
Nous obtenons, nous gagnons des batailles. La guerre est loin d'être gagnée, mais nous obtenons des gains significatifs. Il faut continuer. Et malheureusement, les règlements de compte sont la contrepartie de ces victoires, parce que forcément, il y a des conquêtes, il y a des velléités de reprendre des points de deal. Et effectivement, le procureur de la République, les procureurs, parce qu'ils ont communiqué à deux en l'occurrence, ont bien indiqué qu'il pouvait y avoir des ramifications extérieures. Et le cas de Marseille a été cité, mais c'est vrai. Sur Marseille, c'est vrai, sur d'autres parties du territoire national.
C'est dur.
Où la fleuve marseillaise essaie de s'étendre.
Je vous sens ce matin très, très, presque sur la défensive.
Je ne suis pas sur la défensive du tout. Moi, je suis toujours quelqu'un de très serein, mais en même temps très déterminé. Et je ne peux pas, comme ministre de l'Intérieur, laisser dire que l'État est dépassé dans la lutte contre le narcotrafic. Il y a tellement de choses qui sont faites, tellement de résultats qui sont obtenus. Là, nous ne parlons évidemment que des points de deal. C'est-à-dire le lieu d'écoulement de la drogue. On ne parle pas des réseaux de logisticiens, des réseaux intermédiaires, de toutes ces personnes qui organisent l'importation des trafics de stupes et contre lesquels la Direction Générale de la Police Nationale, et notamment la Direction Nationale de la Police Judiciaire, et toutes les sections de recherche de gendarmerie font un travail formidable. Et puis il y a toute l'importation massive de cocaïne qui arrive des pays d'Amérique du Sud ou pour d'autres types de produits du Maghreb et contre lesquels nous luttons. Et il y a des prises qui sont réalisées qui sont exceptionnelles. Donc on ne peut pas dire que l'État ne fait rien contre le narcotrafic. Ça n'est pas possible.
La lutte,
ça n'est pas audible.
Se fait notamment aussi par la question de une forme de solidarité internationale. Votre collègue Gérald Darmanin à la justice était en Algérie hier. Il a dit qu'il avait bon espoir justement d'une coopération, notamment autour de la question des aides mafias. Est-ce que ça peut être décisif?
Oui, mais Gérald Darmanin a parfaitement raison. Ça peut être décisif. On a un certain nombre d'individus, de groupes mafieux criminels qui sont réfugiés dans d'autres pays ou qui voilà, donc cette coopération judiciaire, elle est absolument indispensable. C'est pas qu'avec l'Algérie et pas qu'avec le Maghreb.
Avec l'Algérie, vous aviez dit que me semble-t-il que votre homologue serait là cette semaine.
Oui, pas cette semaine parce que j'ai tous les textes, j'ai beaucoup de textes cette semaine. D'accord. Il y a le texte riposte, il y a la proposition de loi de monsieur Rodwell qui passe au Sénat, il y a le pacte asile migration, mais à partir de la semaine prochaine, oui, on est en train de caler ce déplacement qui va avoir lieu
dans les
jours.
Donc vous allez recevoir votre homologue
avec ses directeurs,
algérien.
Avec l'ensemble de ses directeurs de sécurité et je vais le recevoir avec l'ensemble des directeurs de sécurité du ministère de l'intérieur français.
Voilà. Vous avez dit que ça s'améliorait, notamment sur le renvoi des OQTF de nationalité algérienne sur le territoire algérien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle proportion ça s'améliore?
Mais on a donné les chiffres. D'abord, la coopération avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, elle porte sur les enjeux migratoires, notamment sur la reconduite, mais pas que. Hein, mais pas que. On a aussi des coopérations en matière de renseignement, des coopérations dont a parlé Gérald Darmanin également, l'antiterrorisme, échanges d'informations, dans les deux sens. Hein, les deux pays échangent des informations. Il y avait beaucoup de choses qui étaient au point mort. C'est surtout ça ce qu'il faut dire. On me demande de dire quel nombre de laissez-passer, d'OQTF, mais je veux redire qu'on a renoué des relations sécuritaires qui n'existaient plus.
Vous diriez qu'aujourd'hui, les relations sont bonnes?
Oui, les relations sont bonnes, elles sont reparties. Voilà, donc ce sont deux grands pays qui se parlent en matière de sécurité. Pour répondre très clairement à votre question, je suis pas en train de me dérober. On en est à 150 depuis le début de l'année, et surtout depuis ma visite, nous avons obtenu autant de de laisser passer. Il n'y en avait pas eu entre le 1er janvier et la date de ma visite qui s'était déroulée mi-février. Donc voilà, oui, les choses se réenclenchent. Bien sûr qu'il faut que ça aille plus vite, bien sûr qu'il faut que ce soit plus fort, mais les choses se réenclenchent et moi je m'en satisfais. Voilà. Et je souhaite évidemment qu'on monte en puissance et je n'ai pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas.
Gérald Darmanin espère un traité d'amitié, dit-il, avec l'Algérie. Vous souscrivez ?
Oui, si Gérald Darmanin l'a dit, j'y souscris, mais à titre, évidemment, moi, je pense que nous avons toujours, les relations avec l'Algérie ont toujours été parfois compliquées, parfois, mais elles sont indispensables, elles sont essentielles. Vous avez plusieurs millions de personnes qui, de près ou de loin, ont un rapport avec l'Algérie. Donc, il faut évidemment qu'on ait de bonnes relations avec l'Algérie. Moi, j'ai toute ma carrière, je n'ai travaillé qu'à ça.
Vous parliez à l'instant de la question des OQTF, vous l'avez peut-être vu, Robert Ménard est convoqué par la justice pour avoir refusé un mariage dans sa ville entre une personne sous OQTF et une autre. Il dit au fond qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire entre deux obligations, l'obligation dans l'OQTF, obligation de quitter le territoire, et l'obligation de marier, sauf qu'une fois que la personne est mariée, il est plus difficile mécaniquement de la faire quitter le territoire. Comment on fait face à ces deux injonctions contradictoires ? Et est-ce que vous soutenez plutôt la position de Robert Ménard ou la position du juge qui dit qu'il l'encourt jusqu'à 75 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité ? Comment on fait face à ces deux injonctions ?
Les textes ne permettent pas à un maire de s'opposer à un mariage dans ce genre de situation.
Donc ça,
c'est l'état du droit. Bon, après qu'il y ait des réflexions sur une évolution possible du droit pour permettre à un maire au moins de saisir le procureur de la République, un certain nombre de vérifications puissent être faites quand manifestement le mariage n'a pour but que d'obtenir finalement un titre. Voilà, je crois que le droit pourrait évoluer en ce sens, mais attention, nous avons la Constitution, nous avons qui s'y oppose, et donc. Moi, j'ai déjà répondu en ce sens à des sénateurs. Il y a une proposition de loi au Sénat.
Oui, ma question, c'est est-ce que vous considérez que Robert Ménard, aurait dû quand même faire ce mariage ?
Je pense qu'un maire doit respecter la loi. Ça, c'est
donc, aurait dû respecter la loi,
Il aurait dû respecter la loi. Ça n'empêche pas que nous réfléchissions à ce sujet. Je l'ai dit en répondant à une sénatrice qui m'avait interrogé sur une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat. Ça n'empêche pas de réfléchir à faire évoluer les prérogatives des maires pour pouvoir effectuer un minimum de contrôle. Voilà, actuellement, il faut qu'on démontre que le but exclusif a été d'obtenir un titre de séjour. Peut-être qu'une rédaction plus light, qui pourrait consister à dire que ça peut être l'un des buts, permettrait sans doute d'aboutir. En tout cas, moi, j'y travaille parce que je pense qu'il faut apporter une réponse aux maires qui s'interrogent.
Est-ce qu'on peut espérer le retour de Christophe Glaize, Laurent Nunez ?
Non, mais tout le monde le souhaite, évidemment. Voilà, tout le monde le souhaite. C'est un sujet dont, moi, personnellement, je ne parle pas à la demande de la famille. Je comprends que Gérald Darmanin a eu l'occasion d'en parler avec le président. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose. Une dernière question. Le 30 mai, finale de la Ligue des Champions. Quel arsenal vous allez mettre en place, PSG Arsenal d'ailleurs.
Non mais c'est la finale, je l'ai dit déjà dans un quotidien du dimanche, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des tentatives de débordement, qu'il y ait c'est à chaque match maintenant,
vous
c'est comme
dit,
ça.
C'est habituel désormais.
Ça veut pas dire qu'on s'y habitue. Ça veut pas dire qu'on s'y habitue, ça veut dire qu'on s'y prépare. Bon, il y aura énormément de monde dans les rues de Paris, en de nombreux endroits de la capitale. Il y a ceux qui rêvent d'empêcher les gens d'arriver dans Paris, ça n'existe pas. Il y aura un dispositif qui visera à contenir les débordements s'il y avait des tentatives de débordement, mais il y aura des tentatives de débordement. Et il y aura, je peux vous l'assurer, comme ça s'est produit pour la finale l'année dernière, comme ça s'est produit pour la demi-finale, il y aura évidemment une riposte des forces de sécurité intérieure qui empêcheront tout débordement. Et moi, je mets en garde tous ceux qui viendraient non pas pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain, mais pour piller des commerces, s'en prendre aux forces de l'ordre, agresser les personnes. La réponse des effectifs de la préfecture de police, du préfet de police, évidemment, du ministre de l'Intérieur, elle sera extrêmement ferme.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Laurent Nunez. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Laurent Nunez était mon invité dans le face-à-face. Éric Ciotti, vous souhaitiez réagir, bonjour.
Oui. Bonjour Madame de Malherbe. Oui. Écoutez, j'ai entendu Laurent Nunez parler de délinquance des jeunes. Alors, c'est vrai qu'à Nice, il y a eu une petite fusillade à balles réelles, légèrement mortelle, je vous l'accorde, avec des petites kalachnikovs.
D'accord.
Mais pour le reste, en 2 mois, J'en parlerai à mon ami niçois, monsieur Marchal. En deux mois, il peut en témoigner. J'ai tout éradiqué. Le protoxyde d'azote, il n'y en a plus à Nice. Monsieur Marchal a cherché. Il n'en trouve pas. Bon, il y a peut-être encore quelques mamies qui inhalent, c'est vrai, de la ventoline. Ah. Mais au niveau des rodéos urbains, au niveau des rodéos urbains, je crois qu'on a eu quoi? En deux mois, on a eu un rodéo urbain. C'est Madame Castagnetti et Madame Marchal qui ont fait un concours de roue arrière avec leur fauteuil roulant. Et c'est Madame Marchal qui a gagné en tenant sur 22 cm. Ça n'a pas non plus cherché bien loin.
Bien sûr. Laurent Nunez souhaite aussi limiter les rêves partis.
Mais ça, c'est pareil. Au début, nous avons agi. Nous avons instauré un couvre-feu à 18h30, mais c'était inefficace.
18h30?
Mais oui, parce qu'à Nice, un couvre-feu à 18h30, ça sert à rien, ils sont déjà tous couchés. Du coup, on a fait un couvre-feu à 16h30.
Ah oui.
Mais là, pareil, il n'y a personne dans les rues. Ils regardent tous affaires conclues.
Ah.
Voilà. Du coup, on l'a mis à 14h30, mais à 14h30, ils font la sieste.
Ah oui.
Alors du coup, on l'a mis à midi moins le quart, mais ils mangent déjà petit point le quart à Nice. Alors, du coup, on s'est dit, ben, on va être radical, on va le mettre à 7h du matin. Mais ça sert à rien, ils regardent tout ça pour le matin. Je suis corporate. Du coup, je ne vous cache pas qu'on a un peu abandonné l'idée du cours.
Vous avez abandonné l'idée. Bon, comme à Marseille, vous avez la DZ Mafia à Nice. Hein.
Oui, enfin, c'est une... Comment vous dire? C'est une filiale de la DZ de Mafia. Mmh. Voilà. Mais qui trafique beaucoup dans nos quartiers. Les bancs publics, on le voit, sont pris d'assaut par des hordes d'octogénaires qui s'échangent sous le manteau, vous savez quoi? Des programmes télé.
Ah oui.
C'est la télé Z Mafia.
Voilà. Eh bien, bon courage,
c'est un peu
tortueux. Laurent Nunez est resté avec nous d'ailleurs. Tiens, rebonjour, monsieur le ministre.
Ouaf, ouaf.
Monsieur Nunez.
Madame, écoutez, pour être rassuré, vous savez, la population aime qu'on mette des moyens et des effectifs en place.
Oui.
Et du coup, moi, je fais simple, hein, je dis ce que les gens ont envie d'entendre. Je ne parle que d'effectifs et de moyens.
Ah, voilà.
Ça mange pas de pain, hein, personne ne me reprochera de parler d'effectifs et de moyens. Comme ça, je ne me mouille pas. Hein, c'est ceinture, bretelles et parachute avec moi. voilà. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais ma réponse de toute façon est toujours la même depuis que je suis ministre de l'Intérieur, c'est que nous allons rajouter des effectifs, Madame de Malherbe, des effectifs pour nos dispositifs et mettre tous les moyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter des effectifs moyens.
Ah non.
Ça veut dire qu'on se donne les moyens, que les renforts soient effectifs dans notre beau dispositif avec beaucoup de moyens effectifs.
Merci beaucoup Laurent Nunez. Tout de suite on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les
titres. Oui, salut Apo. Il est parti Laurent Nunez.
Ouais.
Oh quel dommage. Je voulais poser mes services parce que moi les interrogatoires j'adore ça. Ben oui avec moi c'est pas des interviews, c'est beaucoup mieux, c'est des interrogatoires parce que moi je lâche pas tant qu'ils ont pas craché le morceau. Ben oui, il y a que comme ça que tu peux avoir un scoop, sinon comment tu veux faire pour faire de l'audience? Allez, c'est parti pour les titres. Pardon, le titre, c'est juste pour faire plaisir aux mises intérieures avec l'affaire Émile Louis. Et oui, on démarre avec un sujet léger, un sujet feel good. 50 ans après les premières disparitions de Lyon, les fouilles ont repris. Pour tenter de retrouver quoi? Des dépouilles. Non mais franchement Apolline, 50 ans après, même la chouette d'or, elle a été retrouvée plus rapidement. Non, si on veut vraiment trouver, faut arrêter avec les gendarmes, ça marche pas. Faut prendre des gens motivés, des candidats de la carte au trésor, voilà.
Allez,
à toi Apolline.
Merci Marco. Le Vatican a annoncé pour septembre la venue du pape Léon XIV en France. Emmanuel Macron, bonjour. Vous avez prévu un programme, j'imagine, monsieur le président.
Oui, mais écoutez, c'est assez des... Oui, alors l'orgue, c'était pour le pape après, je crois. Sans courir au niveau de la régie, c'est pas grave. Oui, c'est les stagiaires, que voulez-vous. Oui, alors c'est assez délicat parce que le pape est américain. Oui, on peut arrêter la musique, merci. Oui, le pape est américain. En général, les Américains, quand ils viennent à Paris, vous savez, c'est Moulin Rouge et shopping sur les Champs-Élysées. Mais là, je me... Non, c'est on peut arrêter les orgues. Oui, enfin, pour tout vous dire, voilà, je vais pas amener le pape s'acheter une soutane chez Hermès et faire le tour des clubs de striptease de capitale.
Non, je le sens pas.
Plutôt Donald Trump. Non. Bref, on va faire simple. Le pape, je vais lui montrer Notre-Dame toute jolie, toute rénovée. Hein, grâce à qui? Grâce à Bibi.
Évidemment. Voilà, hein.
Et surtout, je lui demanderai de mettre un cierge pour éviter qu'elle crame une deuxième fois.
Ah, oui, voilà. Ce serait bien. Merci, monsieur le président. Le pape Léon XIV, justement, est avec nous. Tiens, je pense que c'est le moment de mettre l'orgue. Bienvenue en France! C'est une grande nouvelle.
T'es en France? Oui, test micro, ça marche? Oui, c'est bon. Non, mais ma venue en France, vous emballez pas non plus. On fait juste les orgues dans l'intro. Après, ça diminue.
Hein,
tu vas pas me casser les oreilles avec le DJ à et tout ça. Oui, ma tournée en France n'est pas encore signée. Parce que j'ai vu le prix de l'essence chez vous. Rome-Paris, en papa mobile, avec 15 voitures de bagnole devant, 15 bagnoles derrière. Vous savez ce que ça coûte? Surtout que moi, je voulais remplir le formulaire pour bénéficier d'un chèque carburant.
Ah oui.
Mais parce que je pensais que c'était simple, juste mettre une croix, tu vois. Ça, je fais ça toute la journée, c'est mon job. Mais là, non, j'ai les formulaires, c'est une usine à gaz.
Ah bah, vive la France.
Les conditions à remplir sont tellement longues, mais tu as plus vite fait de lire la Bible. Puis de toute façon, j'ai compris que mon secteur d'activité n'était pas éligible. Pourtant, je suis quand même un gros rouleur.
Oui.
Hein? Non, si je viens à Paris, c'est juste par pitié pour Macron.
Ah bon, vous avez pitié d'Emmanuel Macron?
Oui, il m'a supplié de faire remonter sa cote de popularité. Mm. Sauf que moi, dans ma boîte, on n'a jamais fait ça. Mm. Guérir un lépreux, oui. faire marcher un tétraplégique, oui. Oui. Ouvrir la mer en deux, oui. D'accord. Ça, ce genre de miracle, oui, on sait faire. Mais faire remonter la cote à Macron, mais même faire en sorte que les employés de chez nous, ils arrêtent de tripoter les gamins au catéchisme, c'est plus facile que faire remonter la compte à Macron.
Bon, il vous a demandé autre chose.
Oui, il m'a aussi demandé de convaincre son épouse Brigitte de lui accorder son pardon après qu'elle l'ait grillé en train d'envoyer un SMS à une actrice iranienne. Mais là aussi, c'est compliqué. Hein? Moi, je vois... J'ai eu le même problème avec mon épouse parce que j'avais vaguement échangé quelques textos avec Madonna qui était un peu olé olé. Mais là, 5 ans après, elle continue à faire la gueule. J'en parlais avec le cardinal Marshall. Tous les soirs, je suis comme lui. Je dors à l'auberge du cul tourné. Oh.
Merci frère Nicolas. Dans un instant, les GG, les grandes gueules, on va s'intéresser au film L'Abandon. Sur Samuel Paty, est-ce qu'il doit être projeté dans les écoles? Est-ce que ça pourrait être un bon outil pédagogique? 32-16 pour en discuter avec les GG.